Grande Voix d'Afrique. Sayouba Traoré.
La Sonothèque de Radio France Internationale a bien voulu nous communiquer deux disques vinyles, ce qu'on appelait à l'époque des 33 tours. Dans ce paquet cadeau, il y avait également un lot de CD audio contenant des éléments sonores du vieux sage malien Amadou Ampateba. C'est avec un certain empressement que nous allons les découvrir ensemble. Écrivain et ethnologue, nous devons une nombreuse bibliographie à Amadou Ampateba, des romans, des recueils de contes, des pièces de théâtre, des études. On dit de lui qu'il est pour l'Afrique noire le gardien de la mémoire et de la tradition qu'il a bien souvent couché sur papier et est devenu de ce fait le défenseur vigilant d'une civilisation si longtemps méconnue. C'est l'auteur d'une phrase célèbre « En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle ». Lors de la 11e conférence générale de l'UNESCO, Amadou Ampateba prononce un discours le 1er décembre 1960 où il demande que la sauvegarde des traditions orales soit considérée comme une opération de nécessité urgente au même titre que la sauvegarde des monuments de Nubie. Il a cette métaphore. Pour moi, je considère la mort de chacun de ces traditionalistes comme l'incendie d'un fonds culturel non exploité. Explication de l'auteur lui-même, tiré du vinyle 4 et 5 des archives sonores de la littérature noire, une coproduction de Radio France Internationale et du Club des lecteurs d'expression française, parue aux éditions Clés et diffusée en janvier 1976. L'ensemble de ses propos a été recueilli par Ahmed Tchichane, Claude Metra et Jacqueline Sorel à Abidjan, Dakar, Paris et Bamako.
Souviens-toi qu'en Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Dikananina, Chokoroba Manassa, Donisebe.
Vous ne faudrait pas confondre le mot vieillard avec un homme chenu. En Afrique, un vieillard, c'est un connaisseur. L'homme qui possède la connaissance est un vieillard, et c'est pourquoi on dit qu'il y a des vieillards de 17-18 ans et il y a des jeunes de 70 ans.
Donnez ses mains, Djenina. Anda, des maïfou.
Toute tradition qui a duré 1000 ans, il ne faudrait pas la violer, même si tu ne la respectes pas. Il ne faudrait pas essayer de la supprimer.
Anda.
Il ne faut jamais que le soupçon te fasse agir. Le savoir est la plus grande des fortunes par le fait que on le donne sans réussir à l'épuiser.
La tradition. Que représentent les traditions pour l'Afrique de base? Les traditions, c'est l'ensemble de toutes les connaissances humaine de l'Afrique, puisque pour nous tout est histoire, et l'histoire c'est la tradition de vieux. Qu'est-ce que les vieux ont fait pour telle occasion, qu'est-ce qu'ils ont fait à l'occasion de telle maladie, ou quelle position ils ont prise à l'occasion de tel événement. Donc la tradition c'est l'enseignement de base. Nous n'avons pas d'autre enseignement que la tradition. Donc ma position à l'égard de la tradition est net. Je veux que la tradition reste et qu'elle soit mieux connue. Mais je ne veux pas que la tradition soit figée, puisque la tradition doit être considérée comme un arbre. C'est-à-dire, il y a le tronc, mais il y a les branches. Et un arbre qui n'a pas de branches ne peut pas donner de l'ombre. Et c'est pourquoi il faudrait que les traditions elles-mêmes élaguent les branches qui meurent. Un morceau de bois beau séjourner dans l'eau ne deviendra pas caïman. C'est-à-dire que, à un moment donné, quelle que soit l'évolution d'un Africain, qu'il fasse par exemple toutes ses études en France ou en Angleterre ou en Amérique, et qu'il adopte la vie totale de l'Européen, eh bien, une fois qu'il retournera en Afrique, il sentira qu'il lui manque quelque chose parce qu'il sera dépaysé. Il sera comme un étranger dans son pays, ce qui n'est pas souhaitable.
On ne peut dresser une biographie aussi riche sans être obligé de résumer. Amadou Ampateba est né en 1900 ou en 1901 à Bandiagara, au pied des falaises du pays d'Ogon, et il est mort en 1991 à Abidjan. Enfant de Ampateba et de Khadija Patepoulo Diallo, il est descendant d'une famille peu noble. Il fréquente d'abord l'école coranique avant d'être exécutionné d'office pour l'école française à Bandiagara puis à Djéné. Après ses études, son premier poste ce sera à Ouagadougou en qualité d'écrivain temporaire à titre essentiellement précaire et révocable. Après une longue et tumultueuse carrière, en 1962, il est élu membre du conseil exécutif de l'UNESCO, mandat qui prendra fin en 1970. Après cette date, Amadou Ampateba a vécu à Abidjan, où il s'est alors consacré essentiellement à son travail de recherche et d'écriture. Extrait d'une longue discussion entre Amadou Ampateba et Claude Maître.
L'enfant, les influences, l'enseignement de Tierno Bokar.
Je suis né à Bandiagara en 1901. Bandiagara, c'était l'ancienne capitale du Massina sous l'Empire Tokouler. Par ma mère, je suis sénégalais, du Fouta sénégalais, mais par mon père, je suis du Fakala, c'est-à-dire la région qui se trouve entre Djenné et Mopti, donc disons sur le Bani. Tout le monde m'appelle Ampaté, mais en réalité, c'est mon père qui s'appelle Ampaté. Moi, je m'appelle Amadou. En ce qui concerne mon éducation, j'ai été élevé par mon père et ma mère, bien entendu, et aussi par une vieille servante qui était, comme on appelait, ma captive mère. Et puisque dans les familles aisées, on confiait un enfant à une servante, et dès que l'enfant atteint sa majorité, la servante était libérée. Et alors ne peut pas considérer sa mère comme une captive. Et ainsi donc, je dois mon éducation à cette servante, mais surtout à mon maître spirituel, Tierno Bokar. L'enseignement que me prodiguait mon maître était un enseignement d'ordre religieux, mais en même temps sociologique et, je dirais, et traditionnel, c'est-à-dire l'éducation de l'enfant, qu'est-ce que doit être un enfant, qu'est-ce que doit être un homme, quel est le devoir de l'homme vis-à-vis de son pays, et qu'est-ce que l'être humain lui-même. C'était tout à la fois, parce que l'enseignement traditionnel n'est pas comme l'enseignement européen. C'est un maître de vie qui vous parle de l'eau aujourd'hui, demain il vous parlera du feu, après demain il vous parlera de la chasse, et puis il parlera de la botanique, il parlera de l'astronomie, il parlera de l'occultisme, il parlera de tout. Ça dépend des moments et des circonstances.
Les influences de la tradition, les voyages et le milieu familial. Au cours de mes pérégrinations, que ce soit en Mauritanie, au Sénégal, en Guinée, en Haute-Volta, en Côte d'Ivoire, au Dahomey et au Niger, j'ai retrouvé à peu près un enseignement général fondamental commun à tous les pays du Bafour. Et le Bafour, c'est ensemble l'Afrique occidentale. Alors je peux dire que l'enseignement, selon qu'on est dans le Sahara, ou qu'on est dans la savane ou dans la forêt, ça varie, mais quand même, il y a un fond commun.
Et alors, j'ai pu m'enrichir en écoutant les vieux de tous les pays et ajouter au fait que je suis né dans une famille de traditionnalistes. J'ai perdu mon père naturel, je l'ai perdu quand je n'avais que 3 ans, mais ma mère s'étant remariée à un chef de province, et ce dernier m'a adopté. Et or, sa maison est une, on peut dire que c'est l'école pratique. Et comme cet homme m'avait adopté et fait de moi son premier fils, et alors de telle sorte que j'étais toujours à côté de lui, et de très bonne heure, j'ai pu entrer en contact avec des choses sérieuses. Et de telle sorte que je peux vous dire que j'ai mûri avant mon âge. Et la preuve en est que j'ai été chef d'une association de jeunes gens, et j'avais 70 garçons à ma disposition, et au milieu d'eux, j'étais comme un vieillard parce que je leur rapportais tout ce qui se disait dans la cour de mon père. La sagesse africaine. La sagesse africaine, d'abord, consiste à savoir qu'on ne sait pas. Et chercher toujours à savoir. Et savoir aussi que la vérité n'est nulle part entière. Et avoir le courage de reconnaître son erreur et surtout ne pas la cacher. Parce que celui qui cache son erreur devient beaucoup plus ignorant qu'il ne le sait. Tandis que quand on déclare son erreur, on trouvera toujours quelqu'un pour vous redresser. Dans la tradition africaine, tous les êtres ont des droits. Même la pierre a des droits. On n'a pas droit d'aller, par exemple, se mettre tout de suite à briser une pierre comme nous le faisons, sans motif et sans rachat dans la tradition africaine. Vous voulez cueillir un fruit, il faudrait déposer quelque chose au pied de l'arbre. Et surtout dire à l'arbre que vous ne faites pas ça pour gâcher, mais parce que vous en servez pour faire un remède ou bien pour vous nourrir. Et de telle sorte qu'on ne coupait pas comme ça inutilement pour raison de couper. On avait le respect du minéral, du végétal et de l'animal. Il y a une sorte de correspondance. À chaque homme, il y a ce qu'on appelle son correspondant animal, végétal ou minéral. Il ne doit pas lui faire du mal. La mystique. Il faut vivre la mystique. Il ne s'agit pas d'accumuler de mots et puis de réciter de belles phrases, mais il faudrait vivre la mystique. C'est-à-dire se considérer comme un voyageur et que nous avons des étapes à franchir. Et c'est ainsi que la mystique musulmane, par exemple, celle à laquelle j'ai été initié par Tierno Bocar, comporte 9 stations. Alors ces 9 stations sont superposées et il y a 3 qui sont dans la matière, 3 qui parlent de l'âme et puis 3 qui parlent de l'esprit. Et tout cela découle du 1, le 1 dont on ne connaît pas l'origine. Et donc cette présence de l'unité en toute chose est considérée comme étant la présence de cette force impondérable, invisible, insaisissable, mais dont nous sommes les effets visibles et palpables. Alors pour moi, la mystique, c'est le voyage que l'on fait, quittant son corps matériel, ses passions, ses appétits, pour aller vers l'amour et la charité. Voilà la grande voie, en réalité, de l'initiation. Donc c'est une ascèse. Le corps représente notre monture. Et quel en est le cavalier? Notre âme, notre esprit. Et en ce qui concerne l'acquisition matérielle, le matériel ne doit pas être l'objectif, ça doit être un moyen et non pas un but, parce que notre but c'est le bonheur, et or l'argent ne fait pas le bonheur. La preuve que si l'argent faisait le bonheur, des milliardaires ne se suicideraient pas. Donc je crois que l'initiation, c'est d'être d'abord à l'écoute de soi-même et de ses défauts et ne pas avoir peur de soi-même. Et surtout dire que j'existe, mais mon prochain existe. Et essayer d'aller, comme on dit tous les grands initiés, l'amour et la charité, surtout l'amour de son prochain. Le sacré. Vous avez constaté que ces objets fabriqués en série, c'est-à-dire industriellement, sont d'abord moins jolis que ce qui se faisait par la main de l'homme. Car tout de même, la tradition dit que dans le doigt de l'homme, il y a un secret. Ce que l'homme touche est chargé du sacré. L'artisanat. Quand vous trouvez le tisserand africain, au milieu de ces 33 bois, parce que le métier africain est constitué par 33 bois, et par exemple quand il prend la navette, il est considéré comme la pirogue de la vie, mais qui va entre la droite et la gauche, c'est-à-dire le dualisme. Alors, la droite prend et lance à la gauche ne gardera pas, il lancera à la droite. Mais pendant ce temps, le pied s'élève en haut et l'autre pied se baisse en bas. Alors en disant élévation pour les uns, rabaissement pour les autres, donc la vie est un perpétuel recommencement. On monte, on descend, un peuple monte, un peuple descend, un autre peuple remonte. Un autre peuple redescend. Et alors la file de trame qui est posée, c'est la longueur de la vie. Mais il est en deux. Et alors, à chaque fois que le fil passe dans la navette, il y a ce fil qui arrive à former la bande. Quand il rentre et que les deux, le mâle ferme la femelle ou la femelle ferme le mâle, pendant ce temps-là, la vie continue à venir vers le ventre du tisserand. Alors c'est toute la vie qu'il est en train. Et alors chaque pièce lui enseigne quelque chose, quel comportement. Et il ne prendra aucune pièce sans d'abord réciter quelque chose. Évidemment, pour le monde actuel, c'est une perte de temps, il faut aller à la vitesse, il faut se loger dans des boîtes d'allumettes superposées, et au lieu d'avoir de grandes choses. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Je ne suis pas contre le progrès, mais je veux qu'il soit raisonnable. Parce que quand un progrès va polluer, n'est-ce pas, toutes les rivières et tuer tous les poissons qui sont dans l'eau et perturber l'air, alors quel est ce progrès-là? Progrès vers le suicide? Non. Heureusement que beaucoup de jeunes Africains veulent maintenant se réafricaniser. Ce n'est pas une mauvaise chose. Ainsi, ils apporteront à l'Occident ce patrimoine culturel de l'Afrique qui est la connaissance de l'homme. Parce que l'Africain traditionnel n'a jamais cessé d'être humain. Et c'est ça. C'est le retour vers l'humain. Et le respect de toutes choses, le respect du minéral, le respect du végétal, le respect de l'animal, et le respect total de toutes choses, et cela ne peut pas aller sans avoir de deux choses l'une. Ou la notion de la sacralité, ou bien une conscience morale qui atteint le degré de notion de la sacralité, ce qui revient au même. Qu'on soit retenu par sa morale, ou qu'on soit retenu parce qu'on respecte le sacré, ça revient exactement au même. Ce que l'Afrique peut apporter à l'Europe, c'est le sens du sacré que l'Europe a perdu.
3 minutes pour les informations sur Radio France Internationale et on retrouve la parole d'Amadou Mpateba. À tout de suite.
Les grandes voix d'Afrique. Sayouba Traoré.
L'enfant. l'ambiance, les influences, l'enseignement du maître Tierno Boga, la tradition, les voyages, le milieu familial. C'est avec ces éléments d'Amadou Ampateba que nous nous sommes quittés pour les informations. À présent, nous allons nous attacher à découvrir l'écrivain ou comment passer la traduction de l'oralité à l'écrit. L'itinéraire littéraire d'Amadou Ampateba, il y a une étape marquante, l'étrange destin de Vingrain, paru en 1973 et proclamé Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 1974. Ce gros livre raconte l'histoire de Vingrain. Vingrain est un interprète de l'administration coloniale dans les années 1910. Il est issu de l'école des otages, ainsi nommé par l'administration car on y envoyait de force tous les fils de chefs pour leur donner un enseignement de qualité et créer ainsi une élite moderne tout en calmant les éventuelles ardeurs contestataires. À l'époque, le rôle de l'interprète était majeur. Muni d'un certificat d'études primaires indigènes et maîtrisant plusieurs langues africaines en dehors du français, Vingrain sut s'attirer la confiance du commandant des régions et joua un rôle important en lui servant de conseiller et de secrétaire. Ce poste privilégié permit à Vingrain de gagner de l'argent au détriment de l'administration coloniale et des commerçants locaux. Mais l'histoire finit mal pour le héros. Témoignage d'Amadou Ampateba, interrogé en janvier 1976 par Maryse Condé.
Amadou Ampateba, un peu naïvement peut-être, on pense toujours qu'il y a une identification entre un écrivain et le héros qu'il présente. Dans le cas de l'étrange destin de Vingrain, on est étonné de voir que ce personnage que vous nous présentez, Vingrain, ne ressemble pas du tout à cette image que nous avons de vous.
D'abord, j'aimerais vous dire pourquoi j'ai écrit Vingrain, parce que c'est là le grand motif. D'abord et avant tout, c'est pour être fidèle à une promesse, parce que en Afrique, manquer à une promesse, c'est manquer à Dieu. Et surtout quand cette promesse, vous l'avez tenue à un homme qui vous a dit « Faites ça après ma mort. » C'est comme si j'exécutais un testament. J'ai été seulement un interprète. Mais je ne suis pas l'auteur en réalité. C'est Vingrain qui m'a dicté sa vie. Et durant plusieurs mois, chaque nuit, accompagné d'un guitariste, son guitariste préféré, il me contait sa vie. Il m'a dit, tu l'écriras quand je ne serai plus de ce monde. Et aussi, tu ne donneras pas mon nom, mais tu m'appelleras Vingrain. Certes, il a commis des actions répréhensibles, mais à l'égard de qui? Des puissants, des chefs de canton qui eux-mêmes vivaient de rapines, des administrateurs de coloniaux qui abusaient de leur pouvoir. Mais il faut que je me hâte de dire qu'en disant des administrateurs abusés de leur pouvoir, il ne s'agit pas de tous les administrateurs. Parce que j'ai connu des administrateurs qui ont perdu leur carrière à force de défendre les Africains. Et or, Vingrain, il avait cette chose extraordinaire de prévenir celui à qui il va jouer le tour. Je vais te jouer un tour. Tiens-toi bien. Il y avait une sorte de chevalerie dans son comportement. Mais puis encore, il a commis du mal. Parce qu'il a toujours cherché de l'argent à droite à gauche, mais cet argent, il l'a restitué par ailleurs, il l'a donné aux pauvres. Aucun pauvre n'a eu à se plaindre de lui. Et c'est pourquoi, à sa mort, ce sont des délégations de familles qui sont venues au moment où on pleurait pour dire « Vingrain m'a racheté un jour telle chose, Vingrain m'a payé ma dette ». Et toute sa vie, il a rendu d'immenses services aux pauvres. Mais tout ça d'une manière très, très, très discrète. Il ne m'est jamais venu à l'idée de juger ou de ne pas juger Vingrain. Ce qui est venu à mon idée, c'est de reporter fidèlement ce que Vingrain m'a demandé de reporter. Mais maintenant, au fur et à mesure, en le lisant, il y a des moments où je suis étonné devant ce qu'il fait, mais il y a des moments où je tombe d'admiration devant ce qu'il fait. Car à cette époque, vraiment, il vaut mieux aller provoquer le lion dans sa tanière que d'affronter un administrateur de colonie.
Mais quand nous regardons cet étrange destin que vous présentez, Vengrin finit d'une façon assez triste.
Ouais.
Il s'adonne à la boisson et finalement il meurt, il tombe dans un ruisseau, il se noie. Mmh. Est-ce qu'on ne peut pas penser qu'il y a une espèce de morale dans ce récit que vous proposez, même si vous dites que vous ne jugez pas Vengrin?
C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui ai proposé cette morale, c'est la nature même. C'est-à-dire moi, si j'ai attiré une philosophie de cette affaire, c'est pour encore témoigner une fois de plus combien les choses d'ici-bas constituent une sorte de vanité. À telle enseigne que le plus riche peut devenir le plus pauvre, comme l'homme qui est le plus pauvre peut devenir le plus riche. Alors donc, c'est la dualité même de la vie. Puisqu'on ne peut pas trouver un homme qui n'a que du bien en lui. On ne peut pas trouver un homme aussi en qui il n'y a que du mal. Et or, dans Vengrin, il y avait les deux choses. Donc Vengrin a été quand même un prototype de l'humain. Mais ce que j'ai trouvé de très grand, ce que j'ai beaucoup admiré chez lui, c'est la philosophie avec laquelle il a accepté. Parce que tout le monde ne sait pas accepter.
Alors, cette société coloniale que vous présentez, c'est une société musulmane. Et en même temps, nous voyons souvent dans le livre des pratiques qui ont trait à des religions qui seraient autres que l'islam. Est-ce que vous pensez qu'il y avait une sorte de syncrétisme dans les populations?
Non, pas de syncrétisme. Il n'y a pas un pays musulman qui soit 100% musulman. Dans chaque pays de l'Afrique où l'islam est arrivé, comme religion étrangère, il a trouvé les pratiques locales. Il y a des moments où la pratique locale ne va pas à l'encontre du canon musulman. Et il y a des moments où ils sont diamétralement opposés. Alors ceux qui sont musulmans ne pratiquent pas ça.
Mais vous dites que l'enfant Vengrin avait été justement consacré, voué au dieu Gongoloma Soké.
Gongoloma Soké.
Oui. Comment peut-on expliquer que des parents musulmans aient voué leur enfant à...
Ah non, les parents de Vengrin n'étaient pas musulmans. C'est Vengrin qui, à l'école, et puis alors son séjour dans des villes où il a servi dans l'administration, qui est devenu musulman. Mais au moment de sa naissance, l'islam n'avait pas pénétré sa région.
Alors, cette histoire donc se rattache à un moment où l'islam n'a pas encore pris profondément racine dans le pays.
Mm-hmm.
Oui. Et maintenant, quels sont les changements qui apparaissent dans cette société?
Eh bien, ces sociétés suivent l'évolution du monde. Vous comprenez que notre évolution dépend des relations extérieures. Parce qu'on peut dire que c'est la colonisation qui a modifié, ou bien l'évolution africaine a suivi le système de son colonisateur. De telle sorte que les pays anglophones ont copié les Anglais. Et les pays francophones ont copié le français. À telle enseigne qu'actuellement, si on demande que va devenir l'Afrique, je demande toujours de quelle Afrique. Parce qu'il y a une Afrique de base. Et il y a une Afrique de l'école. Alors l'Afrique de l'école suivra son mouvement. Et l'Afrique de base maintenant, va-t-elle avoir un revirement ou bien une réaction intérieure? Je ne le crois pas. Donc elle finira certainement par passer, comme toutes les choses se succèdent les unes les autres, étant donné que rien n'est permanent, parce que la permanence semble être une sorte de stagnation. Et or, l'homme est vivant, il modifie.
Vous aviez pardonné à Vengrin, si vous voulez, ses comportements avec l'administration coloniale. Bon, dans la société africaine que nous connaissons maintenant, est-ce que vous estimez qu'un comportement tel que celui de Vengrin avec des individus au pouvoir, quels qu'ils soient, serait aussi justifiable?
Non, parce qu'il ne faudrait pas confondre. Ça ne peut pas avoir lié dans une Afrique traditionnelle, puisque le pouvoir est sacré. Et personne ne se joue du sacré tant qu'il croit au sacré. Quelle est la difficulté qui empêche un occidental moderne de bien se pénétrer de l'Afrique? Puisque l'Afrique a ses pieds dans le Moyen-Âge et sa tête au XXe siècle. De telle sorte que l'Européen qui, lui, a tout son être au XXe siècle, il ne voit que le côté du XXe siècle, il ne tient pas compte du Moyen-Âge. L'Occident a désacralisé, tandis que l'Afrique est encore dans la sacralité. Et dès que vous enlevez la sacralité, l'Afrique traditionnelle n'existe plus, puisque le profane n'y a pas sa place. Or,
le raisonnement profane, la logique profane n'a pas de place dans des questions sacrées, puisque les questions sacrées ne s'adressent pas au jugement et à la déduction philosophique. C'est une question de foi, qu'on croit ou on ne croit pas.
D'une façon peut-être plus large, quand vous avez à transcrire un texte de tradition orale dans l'écrit, vous avez à faire passer un univers oral dans un certain univers logique, si vous voulez. Enfin, quels sont les problèmes qui se posent à vous à ce moment-là?
Je ne me suis pas posé de problème. J'ai fait les choses selon mon inspiration. Vous voyez, je ne m'efforce pas à faire quelque chose. Je laisse ça couler comme la source. Quand je commence un sujet, dès que je sèche là-dessus, je les laisse tranquilles. J'ai du temps à perdre. À l'école normale supérieure de Bamako, les jeunes gens m'ont demandé quels sont vos titres universitaires. Alors j'ai dit, ben, tenez-vous bien, je suis sorti de l'institut de GSI que je ne sais pas. Je ne suis jamais fié à ce qu'on dit, mais tiens, Pateba connaissait ce qu'on... Moi, pour moi, je sais que je ne sais pas. Parce que dans Kaidra, il est dit que ça andi a anda a andan, ça anda a anda a andata. Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Mais si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras pas. Et alors, moi, je reste dans ça. Je sais que je ne sais pas. Alors, jamais il me vient à l'idée d'être le maître de... Des fois, quand on me dit maître, ça me fait trembler. Puisque je sais qu'est-ce que ça veut dire. C'est très grave. Ou bien quand on me dit excellence. Pourquoi? Parce que j'ai été gardien de port à Avignon. À telle enceinte qu'il y a des fois où j'ai envie de me retourner pour voir où est-elle, cette excellence. Voyez-vous, alors ce sont des choses qui, des fois, moi, ne me mettent pas à l'aise.
Mais cette humilité que vous affichez, c'est peut-être tout simplement une forme de votre pratique religieuse ou philosophique.
Appelez ça comme vous voulez, puisque moi, je ne fais pas une distinction. Puisque, voyez-vous que j'ai 75 ans, donc je ne suis pas de votre temps. Alors nous n'avons pas le même langage. Donc moi, je suis traditionnaliste, où on ne s'embarrasse pas ni de cloisonner les choses, ni de les passer par philosophie, par religion, par ceci. Chez nous, c'est la foi ou la négation. On aime ou on n'aime pas. On peut ou on ne peut pas. Voilà la vie. Vous pouvez, faites et faites davantage. Vous ne pouvez pas abandonner.
Amadou Ampateba, est-ce que le personnage de Vengrain, à l'époque où vous le dépeignez, était un personnage exceptionnel ou bien est-ce qu'il y avait beaucoup d'autres Vengrain à travers le pays, à travers l'Afrique?
Oui, il y avait beaucoup d'autres Vengrain parce que presque tous les interprètes, à un degré quelconque, jouaient le Vengrain. Et les ambassadeurs coloniaux le savent très bien parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent faire aucune nomination s'ils ne sont pas d'accord avec l'interprète. Ils ne peuvent faire aucune destitution sans être d'accord avec l'interprète. Et deux fois, les choses sont jugées par l'interprète la nuit. Parce que les partis vont trouver l'interprète et ils expliquent leur affaire. Et selon les pourboires qui sont donnés, ou bien parfois le sentiment de l'interprète, ou parfois même de questions ethniques ou religieuses, l'interprète savait qui va gagner, parce qu'il va présenter les faits au commandant de telle façon que le commandant lui donnera raison. Et ils avaient sur les autres l'avantage d'être à la fois l'interlocuteur du commandant et l'interlocuteur des partis. De telle sorte, on dit, qu'est-ce qu'un interprète? Un interprète de taille. C'est un cuisinier. Il prend sur le commandant la nourriture ou les vivres, il prend les condiments, c'est la partie. Et il fait la cuisine, il mélange les parties, il fait la chose et il partage, il donne à chacun ce qu'il veut donner. Parce que le défendeur ou le défenseur ne parle pas français. Et le commandant ne parle pas le bambara. De telle sorte que c'est l'interprète qui fait ce qu'il veut. Le commandant est toujours à la merci de son interprète.
À votre avis, je crois qu'il y a une partie de la vie de Vengrain qui est plus importante que tout le reste.
Oui, la fin. Comment il a fini? C'est elle qui comporte le plus de valeur d'enseignement. C'est là que Vengrain a montré ce que valait réellement son être. quand il y a tout perdu et touché le fond de la détresse humaine, il accepta son sort avec une sérénité qui, si on qualifierait de philosophique. Et l'on venait de loin pour entendre les paroles sur l'existence, sur la nature humaine, sur le monde, sur la fortune, sur la femme. Il avait des définitions de cela à sa manière. Alors, un autre intérêt aussi de la vie de Van Grain, il y a pour moi une sorte de trajectoire d'un destin. Angle de vue traditionnel. Tant que Van Grain servait fidèlement son dieu, Gonglomar Soke, il a été assuré qu'il peut combattre. Il était presque dopé. Il ne reculait devant rien. Il avait une assurance en lui-même. Et alors, on ne sait par quel concours de circonstances ou bien par quelle malédiction ou par quel sort ou bien pour payer quelle faute, voilà que son fétiche perd de sa force en touchant la terre. Parce que le fétiche ne devait jamais tomber à terre. Et le fétiche est non seulement tombé à terre, mais Madame Blanche Blanche, par mégarde, a fait balayer tout ça en considérant que c'est de saleté et a fait jeter ça sur le village d'ordures. À partir de ce jour, Van Grain s'est laissé petit à petit vivre. Et qu'est-ce qu'il a trouvé de mieux? C'est de se jeter dans la boisson. Et or, dans cette boisson, il ne s'est pas arrêté à temps. Parce qu'on dit qu'il y a 3 degrés dans la boisson. Et si Van Grain s'était arrêté au premier degré, il se serait relevé. Alors on appelle ça le premier verre, la première calebassée. Donc le premier verre. Le premier verre de la boisson est fait avec du sang de l'agneau. Quand on le prend modérément, il stimule la digestion. Vous êtes content, vous êtes joyeux, vous bondissez comme un agneau. Alors on dit qu'il a bu le sang de l'agneau. Et quand on dépasse ces degrés, on prend la deuxième calebassée, c'est-à-dire le deuxième verre, ou bien le deuxième degré, on atteint le deuxième degré de l'ivrognerie, eh bien, on boit le sang du lion. Alors là, on ne peut plus tolérer, on ne veut que personne parle, on enlève son boubou, on se met à travers les choses, on se considère comme un roi. Et c'est à cet stade qu'on dit de celui qui boit, un pauvre qui parle comme un roi. Ça, c'est l'homme ivre. C'est un pauvre qui parle comme un roi. Malheureusement, Van Grain a atteint le troisième degré, qui est celui du porc, c'est-à-dire de la cochonnerie. Alors donc, dès l'instant que Van Grain a amorcé la boisson, on a su que ces dieux l'avaient abandonné. Parce qu'on dit, quand vous voulez faire une prière pour que quelqu'un soit détruit ou bien pour qu'il soit malheureux, si vous venez chez lui et vous demandez où est-il, et qu'on vous dit il est allé au cabaret, ne perdez pas votre temps, il est déjà maudit.
Alors quand même, on peut dire que dans le destin de Van Grain, il y a une certaine leçon, puisque c'est le fait d'avoir abandonné son fétiche, de l'avoir laissé toucher terre, qui a précipité sa fin.
Oui.
Donc il y a une certaine moralité tout de même dans l'histoire de Van Grain. Ce n'est pas un récit gratuit.
Oui, voyez-vous, c'est nous qui tirons ça. Mais pour moi, je n'avais pas ça en vie, ce n'est que maintenant que je vois la chose. Mais en faisant ça, ce n'était pas une chose que j'avais envisagée. Je n'avais envisagé absolument rien, sinon écrire le livre de Van Grain et le sentir toujours auprès de moi. Et même actuellement, quand je dis Van Grain, je le vois couché, on me dirait que j'entends la musique. Et surtout les refrains qu'il aimait tant. Alors ça, mais des fois, ça me saisit et j'ai envie de pleurer. Et aussi, pourquoi? Parce que j'ai connu Van Grain quand j'étais jeune. Puis je l'ai revu alors que j'étais fonctionnaire. Donc j'ai connu Van Grain chez moi, et dans ses débuts, et après je l'ai vu aussi dans la splendeur, puis dans une sorte de... Parce que quand il me parlait, il avait déjà commencé à décliner. Et on peut se demander aussi, mais comment avez-vous su sa fin? Puisqu'un homme ne raconte pas sa fin, sa propre fin. C'est parce que il a dit à son griotier, il m'a dit, lorsque je mourrai, tu iras dire à Amadou Ampateba comment j'ai fini. Et donc, Dieu m'a dit, il est venu chez moi, il est resté encore 2 mois
pour me raconter la dernière partie de la vie des Van Grey.
Alors, en résumé, pour vous, c'est surtout un acte d'amitié.
Plus qu'un acte d'amitié, c'est un acte filial. Parce que Van Grey m'est considéré comme son neveu, puisqu'il était l'ami de mon oncle, et chez nous, l'ami de l'oncle est l'oncle, comme l'ami du père est père, comme l'ami de la mère est une mère. Et alors, j'ai promis à mon oncle de faire quelque chose, je l'ai fait, et je me suis trouvé satisfait. Mais je ne suis pas fâché que ça ait eu un retentissement. Parce qu'un notaire a toujours besoin quand même de savoir qu'il a fait quelque chose. Mais ce qui a été ma plus grande joie dans cette histoire de Van Grey, c'est que le prix qu'on m'a donné a fait grand plaisir à mes amis. Donc c'est le plaisir de mes amis qui est vraiment mon grand plaisir dans l'affaire de Van Grey, beaucoup plus que tout.
Alors, puisque la société coloniale n'existe plus, vous pensez peut-être qu'il n'existe plus non plus de Van Grey en Afrique ?
Oui, il n'existe plus de Van Grey, si on peut dire, mais c'est-à-dire qu'il existera toujours des gens pour surprendre la bonne foi de l'administration, ou par exemple un député pour surprendre la bonne foi de ses électeurs. Et alors, mais ce n'était plus comme Van Grey. Et le pouvoir n'étant pas extérieur, il est beaucoup plus difficile de le faire comme Van Grey. Actuellement, chaque homme qui va devant le commandant de cercle, il parle directement avec le commandant de cercle, il n'y a plus d'interprète. Donc s'il n'y a plus d'interprète, il n'y a plus d'intermédiaire.
Mais on peut dire que Van Grey, sous la forme telle que vous l'avez écrite, a disparu, mais qu'il y a d'autres métamorphoses de Van Grey.
Et oui, mais ça, c'est la vie. Voyez-vous l'histoire du fleuve. S'il recule sur la rive droite, il avance sur la rive gauche. C'est le dualisme. Les hommes ne peuvent pas ne pas se jouer de petits tours, de petites vilainies. C'est humain. Si cela n'était pas d'ailleurs, la vie serait trop monotone.
On ne résiste pas au plaisir de réentendre un extrait de L'étrange destin de Van Grey. C'est un montage de texte choisi et présenté par Maryse Condé. Le texte est servi par les voix de Toto Bissinthe et Robert Liensol. Et la musique est du grand Banzoumana Sissoko.
C'était l'époque la plus chaude de l'année. Et il faisait plus chaud ce dimanche-là qu'en aucun des jours précédents. Aussi, quand le soleil atteignit le plein milieu du ciel, toutes les ombres se rétractèrent. Chacune se retrancha sous le pied de l'objet dont elle était issue. Au maximum de son ardeur, le soleil brillait, luisait et aveuglait hommes et bêtes. Il fit bouillir comme une marmite la couche gazeuse qui enveloppait la terre. Les hommes buvaient à longs traits et suaient à grosses gouttes. Les poulets, ailes ouvertes à demi, respiraient avec force et précipitation. Les chiens, langues tirées et flancs battants, ne sachant plus où se mettre, haletaient en faisant la navette entre le dessous des greniers à mille et les maigres abris construits devant les cases. Non loin de ces pauvres bêtes, une femme se débattait dans les douleurs de l'enfantement. Elle se livrait à un va-et-vient ininterrompu entre sa couchette, installée dans un coin de sa maison, et les canaries contenant la provision d'eau, installée un peu plus loin. Elle souffrait de la soif, de la chaleur et des atroces douleurs qui la tenaient. C'était la mère de Van Grey en travail de parturition.
Et l'enfant entre dans le monde, ce monde déroutant dont personne ne sort vivant. Il reçoit l'éducation d'un bon fils de Bambara avant d'être réquisitionné pour être envoyé à l'école des otages de Kai. Rien de saillant dans cette première enfance, ni dans cette adolescence. Mais Van Grey sort major de sa promotion et il est chargé de créer et de diriger une école à Diagaramba. Pourquoi choisit-il cependant le dieu Gongolo Masoke pour l'un de ses patrons et adopte-t-il son nom comme pseudonyme ?
Dans la mythologie Bambara, Gongolo Masoke était un dieu fabuleux que l'eau ne pouvait mouiller ni le soleil dessécher. Le sel ne pouvait le saler, le savon ne pouvait le rendre propre. Mou comme un mollusque. Pourtant, aucun métal tranchant ne pouvait le couper. Les éléments n'avaient aucune prise sur lui. Il n'avait jamais ni chaud ni froid. Il ne dormait qu'à d'un œil. Pour cette raison, la nuit avait peur de lui et le jour s'en méfiait. Il épousa simultanément l'aurore et le crépuscule. Il fit bénir son union par Ngoson le scorpion, l'un des plus vieux patriarches de notre terre.
Les dernières années de sa vie, Amadou Mpateba les passera à Abidjan en Côte d'Ivoire, à classer ses archives accumulées durant sa vie sur les traditions orales de l'Afrique de l'Ouest, ainsi qu'à la rédaction de ses mémoires. Amkoulel l'enfant Peul et Oui mon commandant, qui seront publiés en France en 1991. Il meurt à Abidjan en mai de la même année. Son message reste entier et a toujours la même vigueur et la même validité. Il faut travailler à la réhabilitation des traditions orales africaines en tant que source authentique de connaissances et partie intégrante du patrimoine culturel de l'humanité. Le premier rôle dans cette tâche revient bien évidemment aux Africains eux-mêmes. Merci à la Sonothèque de Radio France Internationale. Merci à Eva Moshinsky pour la réalisation. Demain, une autre grande voix de la littérature africaine, l'Ivoirien Bernard Dadier. À demain.